Bon, ce soir m'a posé un petit souci, une petite difficulté, parce que je m'étais dit, dans le parcours que nous traversons pour découvrir un cours en miracle, il va falloir quand même que je vous facilite le passage vers le livre lui-même. Parce qu'à force, je peux vous donner autant que j'essaie de vous donner, mais à un moment, je voudrais que vous sentiez en vous vraiment une permission intérieure d'aller vers le livre lui-même pour vous donner tout le soutien qui va vous manquer dans mes cours. Je ne peux pas vous donner tout, c'est-à-dire ça sera toujours sympa de venir ensemble, mais ce qui va soutenir votre travail sur un autre niveau, c'est que si vous utilisez le livre comme accompagnement, ça c'est certain, parce que il est d'une richesse absolument extraordinaire. En plus aussi des livres de Kenneth Wapnick, mon prof, le cours lui-même va vous donner encore une autre expérience. C'est que je me rends compte, et les gens qui le lisent et qui le prennent pour la première fois se rendent compte que travailler avec ce livre n'est pas forcément toujours aussi facile que ça devrait être ou ça semble être. Voilà. Il y a un langage, il y a une franchise, il y a une présence, il y a certaines choses qui peuvent nous faire obstacle dans notre lecture, dans notre travail avec ce livre. Donc je voulais vous faciliter ce passage vers le livre en vous parlant et en vous donnant aussi l'opportunité de parler de ce livre, mais en vous donnant quelques clés pour désamorcer, c'est ça l'expression, désamorcer les petites difficultés, les petites inquiétudes qui pourraient avoir sur le chemin à la lecture de ce livre. Vous vous souvenez bien que j'ai remis le schéma sur le mur, ça doit vous sembler bien familier maintenant, comme le bon vieux temps. Pour les nouveaux, ça c'est un travail que nous avons fait au début de l'année, au fur et à mesure que nous avons passé 6 séances ensemble ici, nous avons dessiné, nous avons fait toutes ces gribouilles sur le mur, sur le paperboard, qui nous ont donné en fait un schéma de notre voyage à partir de cette unité céleste magnifique d'où nous venons. Souvenez-vous de cette grande œuf cosmique. Oui. Un œuf cosmique ou une unité, une totalité immense, bien sûr, au-delà de ce que tout mot peut possiblement exprimer. À l'instant que cet œuf semblait se briser en des milliards et des milliards de morceaux, dans le phénomène que nous appelons le Big Bang, par une simple lubie de la part de la filialité. La filialité, c'est le nom que le cours donne à l'ensemble de ce que nous sommes. Une extension dans la réalité, une extension de ce principe d'unité. Mais cette partie de l'extension a décidé d'avoir une autre idée pour elle-même. S'est dit, tiens, si on faisait autre chose, si on traçait notre propre chemin, à ce moment-là, bien sûr, le Big Bang, le grand œuf cosmique, c'est brisé selon l'histoire de l'ego, selon l'histoire de l'individualité que nous pensons être. L'œuf s'est cassé. Comme vous savez bien, l'œuf ne s'est pas vraiment brisé. La séparation n'a jamais eu lieu vraiment. Nous sommes en train de voir une image de quelque chose que nous pensons être qui s'est produit, qui n'est jamais produit en réalité, mais nous pensons bien. C'est pour ça que le cours, ainsi que d'autres spiritualités, parlent d'une illusion ou parlent d'un rêve. C'est parce que quand quelque chose semble réel, mais qui ne l'est pas, on l'appelle souvent un rêve, ou une hallucination, ou une rêverie. Mais ce qui est moins évident dans toute cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, de s'être dit, « Et tiens, s'il y avait autre chose, et qu'on commençait à se définir, se donner une autre identité à part, et que par la suite, on a écouté cette voix, on a investi dans cette voix qui a dit, c'est autre chose maintenant, c'est réel, c'était pas juste un figement de notre imagination, c'est quelque chose de réel. Nous l'avons pris au sérieux. Et voilà, Big Bang, et ensuite, l'enchaînement, différents événements. Ce qui n'est pas évident, c'est l'extraordinaire violence avec laquelle tout ceci s'est produit dans notre esprit imaginaire. La violence n'est pas réelle, d'accord? Parce qu'il n'y a pas eu de séparation. Mais par contre, pour la partie de nous qui pense que ça s'est produit, ça provoquait une expérience de violence, de colère, de haine et tout ce qui englobe ce concept de violence et de haine et de ce que nous avons dit aussi, de culpabilité. Tout ceci s'est produit à ce moment-là. Je n'en ai pas parlé vraiment plus que ça, mais c'est clé, c'est un élément clé maintenant pour ce soir, pour découvrir pourquoi ce livre peut nous gêner et nous gêner vraiment profondément. C'est parce que ce sentiment de violence nous a imbibé, infusé avec un sentiment de mal-être qui va profond, 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 beaucoup plus profond que nous le pensons. Ça s'est infusé jusqu'au fond de notre ADN, vraiment cellulaire. Et donc, ça sera un peu le thème pour ce soir, c'est de désamorcer le sentiment de gêne que la lecture de ce livre peut provoquer parce qu'il met le doigt sur ce truc qui fait mal tout le temps. Tout le temps. Il y a un langage, il y a un truc. Il y a deux différentes façons qu'il nous travaille. Il nous travaille par le langage symbolique religieux, parce que nous pouvons avoir effectivement en soi un bagage assez lourd par rapport à cette formation chrétienne que notre société nous a légué. D'un côté, nous pouvons avoir ce gène qui vient de cette source-là, ou nous pouvons avoir un autre gène tout simplement parce que à force de mettre le doigt sur ce qui fait, à force d'utiliser un langage qui est extrêmement clair, à force de ne pas avoir peur, l'auteur n'a pas peur de nous confronter avec le plus profond de notre être, de ce que nous pensons être. À force d'entendre ça, c'est presque épuisant pour notre ego. Je vais vous lire un passage tout à l'heure qui juxtapose justement notre esprit faux et notre esprit juste. Et quand nous lisons ce livre-là et nous commençons à être gênés, c'est systématiquement parce que nous voyons qu'une partie de nous s'identifie avec exactement ce que l'auteur est en train de dire. Et je vais vous, l'une des clés que je vais vous donner ce soir, c'est toujours, toujours, toujours de vous souvenir, de vous rappeler, quand vous lisez ce livre, que vous êtes deux êtres. Vous êtes un esprit faux et un esprit juste. Ne l'oubliez jamais, simplement parce que ça va vous donner une aide précieuse quand vous commencez à vous sentir le gêne profond qui peut ressurgir en vous, comme ça m'est arrivé, ça m'arrive toujours, ça peut m'arriver encore, mais je me souviens très bien que pendant 10 ans que je lisais ce livre, il y avait des moments que je devais absolument me fermer et faire autre chose. Il tranche à un niveau très profond. Et il faut pas qu'on sous-estime le nombre de couches dont nous sommes composés aussi. Donc, la clé, l'une des clés, c'est de vous rappeler que vous êtes un esprit faux, bien sûr, et aussi vous êtes un magnifique esprit juste. Bien au-delà de toutes ces histoires. Nous sommes deux êtres, dans un sens, plus le décideur. Donc, en réalité, nous n'avons pas besoin de tout ça, bien sûr, parce que notre réalité, c'est là-haut. dans l'illusion, ici perdus dans l'illusion comme nous sommes, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'idées, de concepts, de symboles, de compagnons sur notre route. J'ai trouvé cette petite phrase que j'ai trouvé le dire cette idée très clairement. C'est dans la clarification des termes au fond du livre. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. C'est clair, nous sommes là-haut, nous sommes là, c'est notre réalité. Comment avoir besoin d'aller quelque part où nous sommes déjà? Mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité. Donc là, il y a la juxtaposition pure de notre esprit juste et pur. Première ligne, il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu, notre vrai nous qui est là-haut, car tu ne l'as jamais quitté. Petit tu, mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, le petit toi, circonscrit comme toi tu es dans dans l'illusion, les par des fausses croyances sur ton identité. Donc je trouvais juste que ça disait très clairement que en réalité nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous pouvons avoir, si nous voulons, une expérience directe de révélation pure de la réalité. C'est très rare. Certaines personnes ont pu le faire et ils y restent s'ils peuvent, mais sinon pour nous, la plupart d'entre nous, nous avons besoin de quelque chose beaucoup plus progressive parce que nous avons cette fausse identité. Donc il va nous aider avec cette fausse identité pour nous débarrasser de notre fausse identité, mais pour ceci on va avoir besoin de symboles et de concepts et de certains langages. Donc c'est le sujet pour ce soir, parce que la société autour de nous s'est emparée de cette idée que nous avons besoin de symboles et de termes et de concepts. Et il y a certaines institutions qui ont imposé leur symbolisme sur nous et qui nous ont légué à une certaine charge, une certaine histoire qui est rattachée à ces symboles. Je parle notamment de l'Église et les symboles qui sortent de la Bible. Je parle de ça spécifiquement, bien sûr, parce que le cours utilise les mêmes termes, les mêmes symboles dans les mots, pas du tout dans le contenu, dans le fond, dans la signification, mais dans les mots, comme Dieu, Jésus, Saint-Esprit, miracle, péché, culpabilité. Ensuite, nous utilisons les mêmes mots, mais avec un sens, une signification complètement différente. Et l'un des objectifs de ce livre, il est venu effectivement pour nous aider à retourner entièrement le sens de ces symboles pour que ces symboles deviennent une source d'amour au lieu d'être ce qu'ils ont été jusqu'à là, une source de culpabilité, de mal-être, de remise en question de sa valeur, d'exclusion. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc, la Bible n'est... Là, il y a une nuance importante à clarifier. C'est que quand j'ai dit tout à l'heure que la Bible s'est imposée son symbolisme sur nous, ce n'est pas exactement vrai. Personne ne peut nous imposer quoi qu'il soit. Si la Bible existe, si l'Église s'est emparée de la Bible, en fait, elles sont très... Vraiment, elles ont évolué dans une symbiose, bien sûr, parce que l'Église a défini la Bible... Et la Bible est sortie de l'Église, de leurs exigences, de leurs besoins. La Bible sert très bien, a servi très bien les objectifs de l'Église, surtout à une certaine époque. Mais si ça s'est produit comme ça, c'est pour une raison. C'est parce que ce sens de culpabilité et de honte et de remise en question de la valeur de chacun était déjà inné dans l'ADN de l'esprit, de la psyché humaine. C'était déjà inné en nous. Donc l'Église s'est servie simplement de ça pour ses propres besoins. Comme je pense que nous avons dit dans un autre stage, si vous voulez faire quelqu'un faire quelque chose, le meilleur moyen de le faire, c'est de les culpabiliser. Personne aime se sentir coupable. Donc, quoi de mieux que de baser toute une religion sur la culpabilité? Mais attention, l'Église catholique est loin d'être la seule à faire ceci. Je pense que l'idée de culpabilité et de péché et de redevance fait partie intégrale de quasiment toutes les grandes spiritualités ou mouvements religieux dans le monde. Certainement chez les juifs, certainement chez les musulmans. Je voudrais bien savoir si quelqu'un a un exemple de ça dans le bouddhisme. C'est-à-dire que si on ne porte pas des vêtements, on complète pas les rituels de la bonne façon, quelque chose, c'est très très subtil quand même. L'idée de ne pas être tout à fait à l'auteur, de ne pas être tout à fait dans le juste, d'avoir une idée que voilà, vous pouvez mieux faire, mais avec un petit sentiment de condamnation. Je me pose la question. Je souhaite que non, bien sûr. Quelque chose qui m'avait frappé il n'y a pas si longtemps, il y a un an maintenant, c'est assez facile à déterminer la date. C'était à la suite des catastrophes au Japon l'année dernière. Je me souviens bien que le maire de Tokyo, qui doit être soit bouddhiste, soit shinto, il avait dit, tout à fait comme un bon catholique, que c'est très regrettable ce qui s'est passé. Il est convaincu que ça s'est produit à cause des mauvaises mœurs des habitants de Tokyo. Que c'est une punition, mais il n'avait pas dit divine, mais c'est une punition à cause du mauvais comportement, de mauvaises mœurs des habitants de Tokyo. Et c'était juste frappant qu'il vient d'un contexte entièrement en dehors de notre culture occidentale, mais quelqu'un de notre tradition religieuse, au moins, aurait pu dire exactement la même chose, très facilement. Donc, c'est juste pour dire que c'est inné dans l'être humain. L'idée que des coupables, l'idée de rétribution, l'idée de punition divine est ancrée au fond de nous. C'est ce qui donne le sentiment d'être poursuivi. Le sentiment de peur chaque fois le téléphone sonne. Pas chaque fois, peut-être forcément, mais quand même, ça peut être qui? Ou le courrier, une enveloppe qu'on ne reconnaît pas de l'administration. Oh non, vous n'allez pas dire que vous tombez pour celui-là. Vous avez peut-être vos propres exemples, mais c'est très très subtil. L'idée qu'il y a quelque chose à craindre, mais quelque chose presque d'ordre, pas divin, mais très abstrait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une sorte de gêne, comme si on me regarde presque, comme si quelqu'un dans l'administration a son œil sur moi, ou pouvait y avoir, ou je peux être découvert. Quelqu'un pourrait découvrir quelque chose sur moi. Finalement. Quand est-ce que ça sera mon tour? Même si je suis complètement innocent, j'ai rien fait, je cherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu avoir fait? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait me reprocher? C'est ça, reprocher. On peut chercher.
Mais il y a aussi la conscience du karma.
La conscience du
karma. En se disant que s'il nous arrive quelque chose de mal, ça peut être quelque chose qui vient d'une incarnation passée, et puis qu'on est en train de trouver des choses qui n'ont pas été claires.
Je comprends l'idée, oui. Je me demande à quel point, par contre, que même le karma, les idées karmiques, ne font pas partie de cet ADN, de cet ensemble, quand on prend un pas de recul, on dort. En fait, le cours regarde pas simplement notre vie maintenant, mais l'ensemble de toutes nos vies, si on veut, pour trouver la trame. Parce que si ça vient d'une vie antérieure, peut-être, effectivement, j'ai fait une bêtise dans une vie antérieure, pourquoi je l'ai fait? Peut-être parce que je me sentais mal.
Mais on a remarqué quand même quelque chose au cours de notre vie, notre évolution, c'est qu'avant, on se laissait avoir pour cette histoire de karma en se disant, bon, on a mérité et tout ça. Mais maintenant, on se rend compte que ça va de plus en plus vite et que tout de suite, dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas net, tout de suite, on a le retour de bâton. Action, réaction.
Ah, ça, c'est...
Donc, ça, c'est plus le karma, c'est action, réaction.
Oui, on peut entrer dans ce genre de cycle, mais c'est peut-être que quelque chose en nous a envie de voir ce rapport de plus en plus vite. C'est-à-dire, ne veut pas juste laisser s'accumuler sous le tapis toutes les bêtises qu'on fait, tous les écarts dans l'esprit faux qu'on fait. Peut-être on veut voir le résultat de tout ce que nous faisons. Si ça arrive à quelqu'un, c'est peut-être par sa volonté de vouloir voir le rapport entre les deux pour avoir un rappel. Mais tiens, oui, là, je n'étais pas obligé d'avoir dit ceci ou d'avoir fait. C'est la remise en question. Donc, Dominique ?
J'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport au karma. Parce que tout dépend aussi le regard qu'on porte sur cette notion-là. C'est un regard très occidental. Considérer que c'est une punition, ça peut être vu aussi ni plus ni moins, c'est encore une occasion pour voir si on est dans l'esprit juste ou l'esprit faux, et c'est juste une prise de conscience, sinon on reste dans cette espèce de boucle de culpabilité et de réparation qui nourrit tout à fait.
Ah, exactement. Ça sera effectivement, si nous tournons vers l'esprit juste, ça sera toujours une interprétation de douceur et pas de culpabilisation. Absolument. Toujours juste pour dire, si ce genre de choses arrive, ce n'est pas une punition, c'est juste quelque chose qui arrive, que quelque chose en nous a souhaité voir pour ses propres raisons, mais on n'a pas besoin de se culpabiliser pour autant. On a juste besoin toujours de dire, maintenant, quel choix ai-je ? Le choix que j'ai maintenant face à cette petite catastrophe qui vient de m'arriver, que voilà, j'ai perdu ma voiture ou je me trouve à l'hôpital, c'est ne pas aller en arrière et chercher où est-ce que j'ai fait une bêtise et tout ça, parce que ça va toujours finir par renforcer la culpabilité. Toujours. L'idée, c'est de dire, là où je suis maintenant, mon choix, c'est de trouver une perception d'innocence par rapport à moi-même ou par rapport aux autres. Que nous n'avons rien fait. Chaque fois que nous manifestons, que nous... Le cours parle de scénario, scripts en anglais. C'est ça dans les films ? Quel scénario ? Voilà. Scénario. C'est-à-dire que si je m'inscris, si je prends le... Au lieu de... Voilà, il y a 4 différents scénarios sur la table pour la semaine à venir. Inconsciemment, parce que je ne suis pas encore très conscient, je fais comme ça, ah tiens, j'ai pris celui-là, je vais me trouver à l'hôpital avec une grande bosse sur la tête. Dans les autres, j'ai pas eu de soucis, ou là j'ai perdu ma voiture, et là ici, au lieu de dire, oh mince, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi aller en arrière, dit, c'est exactement pareil, je fais ça ou je fais autre chose. La seule raison que j'ai pris un scénario qui me montre soi-disant des choses négatives, c'est parce que quelque part j'ai dû me sentir un peu séparé de mon identité, ma vraie identité, unie. En conséquence, j'ai dû sentir tout le mal-être de cet état d'être séparé de ma réalité, parce qu'être séparé de ma réalité, je ne peux pas possiblement me sentir tout à fait bien, par définition. Et inconsciemment, ça m'a guidé vers cette scénario-là où j'aurais pu éviter. Au lieu de prendre ce marteau-là, la tête s'est déboîtée, ça m'est tombé sur la tête, ce qui m'est arrivé. J'ai une cicatrice pour le montrer. Parce que j'avais une très bonne raison à l'époque, parce que c'était même pas mon marteau. J'étais en formation, un centre de formation. Pour devenir plaquiste, artisan, justement, c'était le premier jour. Ils étaient soi-disant responsables pour leur équipement et tout ça, c'était assez classique, c'était un marteau, une massette avec une manche en bois et une tête en fer. Il faut les tremper de temps en temps pour, si c'est très très sec, le bois se rétrécit. Et donc, premier coup, la tête s'envole, et ça, le premier jour, je suis à l'hôpital. Allô, Pat? comment ça va, chérie? Très bien, je suis à l'hôpital, 4 points. Et donc, le formateur, qu'est-ce qu'il m'a dit après? Parce que je trouvais bien sûr que j'avais toutes les raisons. Moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer le raisonnement et les mots qui traversaient mon esprit. J'avais toutes les raisons pour croire que c'était une erreur assez importante de sa part. Et en plus, il m'avait dit, ah oui, ça arrive. On oublie de les gonfler. Ah oui, ça arrive, oui. Et donc, pourquoi? Ma question, c'était, pourquoi est-ce que j'ai pris ce marteau? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu? Pourquoi est-ce que je l'ai levé au-dessus de ma tête avec ce mouvement en particulier qui l'a fait voler sur ma tête à moi au lieu de tomber juste derrière moi à 20 cm? Il y avait une multitude de différents scénarios où je ne me suis pas fait mal. Je ne m'étais pas fait mal. Une multitude. Je l'ai vu de loin. Inconsciemment, ce scénario-là, si je fais comme ça, si je prends le marteau, si je fais semblant de ne pas voir que la tête s'enlève un petit peu, si je le lève exactement comme ça, si je le tape exactement comme ça, si je le relève exactement comme ça, ça va me tomber exactement pile poil là. Je l'ai vu de loin. Je dis parfait.
C'est pour moi.
C'est pour moi. Mais ça semble pas être comme ça. Pourtant, c'est comme ça. C'est mon choix. Entièrement, absolument, tout est mon choix. Pourquoi les choses se passent comme elles se passent quand elles auraient pu se passer autrement? C'est à cause de l'inconscience, de l'inconscient. Le mal-être, ce que nous appelons dans le cours la culpabilité ontologique, est très, 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 très profonde. C'est notre ADN. Si je me lève le matin et je ne me sens pas intimement lié dans un ensemble parfaitement apaisé avec ma source, mon parent céleste, dans un ensemble avec toute humanité, avec toute chose, à savoir qu'il n'y a rien à reprocher, il n'y a rien à vouloir changer, le temps n'a pas commis la moindre erreur ou faute dans l'existence. Si je ne ressens pas ça, je peux être sûr que je suis dans une optique de séparation. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une... ça ne mérite pas de culpabilité ou quoi qu'il soit. C'est juste du point de vue du cours, une simple petite erreur, c'est tout. On se lève tous les matins et nous sommes des anges. Mais on ne le sait pas, on ne le sait plus. On insiste, on continue à insister d'être autre chose que nous sommes. Ah, je l'ai vu de loin. Et je voulais avoir raison. Pour revenir à notre histoire, la Bible ne fait, et les autres religions, spiritualités qui se servent de ces symboles et de se servent de nous pour nous culpabiliser, ne fait que faire ce que nous souhaitons. Entendre et ressentir. L'attirance vers la culpabilité est quelque chose d'extraordinaire. C'est une force en nous. C'est pour ça que quand on lit ce livre, si on ne fait pas attention, si on ne se rend pas compte de cette attirance vers la culpabilité, nous allons ressentir, nous allons capter ces mots de pur amour comme une incrimination, comme une accusation. Nous vivons à travers la culpabilité. Notre petit être vit à travers la culpabilité. Parce qu'il est né de la culpabilité. Toute cette existence, tout ce monde de petites choses, de petites personnes, de petits événements, de manque, de pénurie, des difficultés financières, du système bancaire. Tout ça existe grâce à la projection de l'idée de ce mal-être énorme, de culpabilité, qui est à la base cette culpabilité qui a éclaté au moment que nous nous sommes dit, tiens, Et s'il n'y avait pas autre chose que cette magnifique domaine céleste? Maintenant, nous avons un livre, peut-être parmi d'autres spiritualités, le cours lui-même dit qu'il est juste une philosophie parmi des milliers d'autres pour nous guider vers notre vraie maison. Nous avons maintenant un livre qui parle avec le même symbole, mais qui les utilise vraiment à des fins complètement opposées. La Bible et l'Église nous ont parlé d'un Père céleste, effectivement, mais un Père qui nous a fait un test au départ de ne pas faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on est absolument sûr quand on dit à un enfant surtout de ne pas faire quelque chose? La première chose qu'il va faire, il va faire ça. Voilà, il va faire la bêtise. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? De ne surtout pas toucher à l'arbre là-bas, dans ce jardin. Donc, la Bible utilise un ensemble de symboles qui construit une image d'un père qui n'est pas très aimant, où il est aimant par rapport aux enfants qu'il aime, mais aux enfants qui font des bêtises, il ne les aime pas. Donc, un père qui n'est pas aimant, au contraire, il nous exclut de son jardin. Il nous met dans un monde où on est garanti de souffrir, où il faut travailler, il faut transpirer pour gagner son approbation. Et si il y a le moindre petit écart, on ne l'aura pas. Et si on ne l'a pas, il va nous condamner à l'enfer pour toujours. Il nous envoie un fils magnifique, très spécial, unique, le seul qui est vraiment bien. Les autres, c'est vraiment moyen. Mais un fils. Et qu'est-ce qui se passe? Trahison, crucifixion. Donc ce frère-là, on a une relation ambivalente avec lui quand même. Parce qu'on ne sait pas s'il nous aime, parce qu'après tout, on l'a crucifié. Donc la façon que la Bible a utilisé ces symboles très puissants, c'est pour démontrer un monde de trahison, de culpabilité, de péché, de rétribution. D'un frère qui est extrêmement spécial par rapport aux autres qui sont un peu exclus. Donc, qu'est-ce que le cours fait? Le cours fait exactement l'inverse. Il nous montre un père qui est vraiment aimant. Tout le monde est inclus dans son monde. Il nous appelle pour entrer dans son monde. C'est pas qu'il nous supplie, il n'a pas besoin de supplier parce qu'au fond, il sait que nous sommes toujours là. Il veut que nous nous réveillions simplement. Du bonheur qu'il nous a déjà donné. Un bonheur sans fin. Les mêmes mots, Dieu. Mais maintenant, un père aimant. Un père qui ne connaît pas l'idée de péché. Un père qui envoie, entre guillemets, un fils, Jésus. Mais si Jésus n'est pas plus spécial que nous, il est exactement pareil. Qui est là simplement pour prendre notre main, et c'est tout. Et on peut tout lui faire, il s'en fiche. On peut l'insulter, on peut le battre, on peut le crucifier. Ouh, il rigole. Il rigole, il s'en fiche complètement. Parce qu'il sait, il n'est pas son corps. C'est une marionnette. Le corps, c'est une marionnette. Pourquoi il va prendre au sérieux ce qu'une marionnette va faire à une autre marionnette? C'est des guignols. On est en train de regarder une guignole qui crucifie une autre, qui tape sur la tête, et puis pourquoi on va prendre tout ça trop au sérieux? Jésus va certainement pas le faire. La Bible nous a raconté une autre histoire, certainement. Donc le cours nous offre exactement les mêmes symboles, mais les réinterprète complètement pour laisser des messages d'amour. Et c'est, il faut que vous essayiez de vous souvenir de ça quand vous lisez le livre et vous commencez à ressentir ce petit mal-être, parce que ça va certainement arriver. L'objectif de ce livre, c'est de nous guider vers plus d'amour. Pour le faire, il ne va pas se détourner des zones d'ombre. Il va aller dedans avec nous. Il va mettre le doigt sur l'ombre, sur ces zones d'ombre qui sont ces endroits de honte et de blâme, surtout ici, les étapes 14, 15, 16, 19, tout ce qui est la partie projection, 18, notre relation avec le monde et ici, il va nous aider à aller dedans avec une franchise et avec une clarté pour dire assez de bêtises, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est tout. C'est juste pour nous guider tranquillement à travers tout ça. Donc, maintenant, je vais faire le premier extrait, parce que j'ai une série d'extraits que je voulais vous lire, puisqu'il s'agit justement de faire un travail avec le livre. Nous avons eu un mauvais rêve, et Jésus veut maintenant nous présenter un autre rêve. Je vais juste vous lire ça. Tu es le rêveur du monde des rêves. Il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile à terrifier le Fils de Dieu, c'est nous. Parce que pour les nouveaux, le Fils de Dieu, c'est le nom de code pour l'ensemble de l'humanité ou la filialité, ce que nous appelons aussi autrement. Il n'y a pas un Fils de Dieu. S'il y a un Fils de Dieu, nous le sommes. Tous ensemble. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile a terrifié le Fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait perdu son innocence, nié son père et fait la guerre contre lui-même. Le rêve est si effrayant, il semble si réel, qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité sans une sueur de terreur et sans un cri de peur mortel, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre la voix qui appelle avec amour pour le réveiller. Un rêve plus doux, dans lequel sa souffrance est guérie, et où son frère et son ami, pas son adversaire, son ennemi, Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie, et il lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur. Ça, c'est rassurant. C'est vraiment très, 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 très beau. Dieu sait que nous sommes perdus dans un mauvais rêve. Mais c'est tout ce que c'est. Donc, maintenant que je vous ai donné le côté doux, il y a des beaux passages comme ça dans ce livre. Je vous encourage à les dénicher, à les chercher. Parce que quand vous tombez sur un mauvais passage et ça commence à vous faire peur, tournez la page et allez vers un très 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 joli passage, sincèrement. Parce qu'on oublie des fois, en lisant des mauvais passages, qu'il y a des très beaux passages. Maintenant, quelques mauvais passages. Extrait numéro 2, où est-ce que je l'ai ? Là, c'est pas encore trop mauvais. C'est juste pour vous montrer le symbolisme, la façon que le cours utilise le symbolisme de Dieu. Dans cette petite paragraphe-là, vous allez commencer à voir une certaine structure de psychologie, de philosophie qui ressort. Pour regarder la peur de Dieu, ce qui est aussi l'un des sous-sujets de ce soir, la raison que le livre peut nous intimider, nous laisser avec une sorte de malaise. C'est à cause de cette peur de Dieu inconsciente qui est le résidu ou le résultat de l'histoire de l'ego qui a dit la séparation est bel et bien réelle. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'imaginaire. Vous ne prenez pas les rigolades de cette séparation. Vous ne rigolez pas, c'est très sérieux, c'est un péché. Et c'est ce qui est à l'origine de toutes ces histoires de la peur de Dieu. Et il faut que nous apprécions aussi que nous faisons partie, comme nous faisons de l'ego. Tant que nous sommes identifiés avec nos petits êtres, nous allons aussi avoir une peur de Dieu ou une peur de cette autorité ou de cette peur abstraite. Pour regarder la peur de Dieu, il est certes besoin de quelques préparations. Seuls ceux qui sont sains d'esprit peuvent regarder la pure insanité et la folie furieuse avec pitié et compassion, mais sans peur. car elle ne semble effrayante qu'à ceux qui les partagent. Et tu les partages tant que tu n'as pas regardé ton frère avec une foi, une tendresse et un amour parfait. Devant le pardon complet, tu restes encore sans pardonner. Tu as peur de Dieu parce que tu as peur de ton frère. Ceux à qui tu ne pardonnes pas, tu les crains. Et personne n'atteint l'amour avec la peur à ses côtés. Donc là, c'est pour commencer à voir comment on utilise un langage quasi biblique de Dieu, de frère, de pardon, mais pour structurer notre travail. Il fait le rapprochement entre la peur de Dieu, le pardon de Dieu, le pardon de notre frère, une compassion. Ce que j'essaie de faire dans nos cours, c'est des fois, en fait, pour la plupart, sortir la philosophie de son contexte du langage biblique pour faire utiliser un langage un peu plus générique. Mais la raison que c'est utile des fois de revenir sur le texte d'origine, c'est à cause de cette puissance qui ressort quand on utilise les symboles d'origine dans leur jus, de parler de Dieu et de frère. Quelque chose en nous peut aussi résonner avec ça. Donc, maintenant, pour un autre petit extrait... oui, voilà. Ah, ça va me faire plaisir. Ou pas. Bon. Accrochez-vous. Là, je vais vous lire un passage. C'est sur notre façon dans l'ego d'utiliser la peur. De nous servir de la peur. Quelque chose en nous va activement aller à la recherche de la peur. Dis-moi s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas volontairement ou avec envie regarder un film qui fait peur, qui n'a pas fait. Tout le monde, à un moment ou autre, a regardé un film qui à un certain niveau fait peur, utilise les symboles, utilise une partie de l'histoire. Marcel n'est pas sûr. Non, non. Même dans ta jeunesse. Donc, pas de violence, pas d'horreur.
Non, je ne
crois pas. Polar. Ah, ok. L'auréole commence à briller. Attention. Attention. Tu vas nous quitter. Mais on veut que tu restes avec nous. Ouais, là je comprends. Ouais. Qui n'a pas été attiré par une histoire à la télévision pendant les infos, une histoire de violence, c'est-à-dire intrigué. Quelle violence! Voilà. Oui. Qui ou sinon qui n'a pas eu une phase dans sa vie quand il n'a pas eu du mal à sortir d'une spirale de tension, de peur, d'anxiété. Une phase de 6 mois ou 1 an peut-être quand pour X raisons on sent un peu mal à l'aise par une idée que l'avenir ne sera pas beau. Une idée qu'il y a des choses à craindre, il y a des choses... Il a soif. Il a soif, oui. Le pauvre, voilà. Il dit, oh, toute cette philosophie, ça commence à me travailler. Ça donne soif, oui. Donc, ce passage ici, c'est Jésus... Parce que j'ai oublié de vous dire qu'en fait, l'auteur s'identifie comme Jésus. Ce n'est pas tout à fait le Jésus de la Bible, mais le Jésus de la Bible, on ne sait même pas si c'était le vrai Jésus ou non. C'est-à-dire, le Jésus de la Bible, même les experts, les théologiens, ne sont pas sûrs si les histoires de la Bible sont justes par rapport à la vraie vécue de Jésus. Donc, il veut dévoiler toutes les splendeurs de l'ego, toute la splendeur de cette activité-là. C'est uniquement quand on cerne avec exactitude la nature de le système du faux esprit que nous pouvons décider qu'enfin nous ne voulons plus participer. Nous ne voulons plus y participer. Si nous ne savons même pas que nous y sommes, comment nous pouvons décider d'aller ici, l'autre côté, vers 23, 24, 25, 26, comment nous pouvons décider de changer en utilisant le pouvoir du décideur? Il faut qu'il nous mette le doigt sur toutes ces zones d'ombre, on the darkness, comme on dit en anglais. Donc ici, dans le texte, c'est chapitre 19, l'attraction de la culpabilité, paragraphe 12. Les messagers de la peur sont entraînés par la terreur et ils tremblent quand leur maître les appelle à son service. Car la peur est sans pitié même pour ses amis. Ces messagers s'esquivent coupablement en quête affamée de culpabilité, car ils souffrent du froid et de la faim et sont rendus très féroces par leur maître, qui leur permet de se repaître uniquement de ce qu'ils lui rapportent. Pas le moindre lambeau de culpabilité n'échappe à leur regard affamé. Et dans leur quête sauvage du péché, ils se jettent sur la première chose vivante qui leur tombe sous les yeux et la rapportent hurlante à leur maître pour être dévorée. N'envoie pas ces messagers sauvages dans le monde pour qu'ils s'en repaissent et fassent leur proie de la réalité, car ils t'apporteront des nouvelles de peau et de chair et d'os. On leur a enseigné à rechercher le corruptible et à revenir la gorge remplie des choses pourries et putrescentes. Pour eux, de telles choses sont belles parce qu'elles semblent apaiser les affres de la faim, car la douleur de la peur les rend frénétiques. Et ils voudraient éviter le châtiment de celui qui les envoie en lui offrant ce qui leur est cher. Qui rigole maintenant? Moi, j'ai pas trop rigolé quand j'ai lu ça. En fait, à vrai dire, en réalité, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que j'ai trouvé, c'était presque beau dans la poésie, je veux dire, dans le langage lyrique. Et c'était tellement brutal dans la perspicacité ou dans l'honnêteté. Si on regarde tous la façon que l'être humain se comporte, nous avons tous une façon des fois de chercher la noix et de revenir dessus. Et une fois que là, ça ne nous satisfait plus, on le trouve ailleurs. Si on veut, on trouve toujours un problème. C'est ça, on trouve toujours un gène quelque part, le gène qu'on trouve sera toujours chez un autre. Ou même des fois dans un cas de dépression, parce qu'on ne peut toujours passer par là, ces chiens sauvages, ces bêtes sauvages, ça, on les envoie à l'intérieur pour trouver toutes les maux de la terre. Je vous donne ces paragraphes-là parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns des passages comme ça qui sont assez très très évocateurs. Qui articule je ne vais pas dire avec férocité, mais avec une franchise énorme et avec un langage extrêmement direct, la nature du système de pensée de l'ego, de la séparation. Ici, tout ce qui est entre 9 et 18. Je ne veux pas que vous ayez peur, je ne veux pas que vous le preniez trop au sérieux, je veux que vous le lisiez comme un roman, si vous tombez dessus. Sincèrement, le prenez vraiment par petite dose. À savoir que je vous ai lu paragraphes 12 et 13, maintenant je vais vous lire paragraphe 16. Trois paragraphes plus tard. L'amour aussi dresserait un festin devant toi, sur une table couverte d'une nappe immaculée, dans un jardin tranquille, où l'on n'entend jamais d'autres sons que des chants et de joyeux et doux murmures. C'est un festin qui rend honneur à ta relation sainte et auquel chacun est accueilli comme un invité d'honneur. Et tous ensemble, dans un instant saint, comme ils se joignent en douceur à la table de communion, remercie Dieu pour ce repas. Et là, je me rejoindrai à toi, comme je l'ai promis il y a longtemps et comme encore je le promets. Car dans ta nouvelle relation, je suis le bienvenu. Et où je suis le bienvenu, je suis là.
Qui parle là?
Jésus.
Ah, oui.
Ouais. C'est pas beau? donc, c'est juste pour dire que Il parle d'un côté à nous dans l'esprit faux et de nous dans l'esprit juste. On a toujours deux parties de nous. Donc, si vous commencez à travailler avec ce livre, sache qu'il y a, comme cette première phrase que je vous ai donnée au début de la soirée, il n'est pas besoin d'aider pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Ça, c'est notre tu supérieur, notre grand tu, grand nous. Et dans la deuxième phrase, il utilise le petit nous. Donc il comprend qu'on est les deux à la fois, toujours. Mais il nous parle dans le petit nous, toujours pour nous élever vers le grand. Pas pour nous rabaisser, pas pour nous culpabiliser, mais pour nous dire, assez de bêtises, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Voilà. Donc, seule autre petite chose, il faut comprendre de ces symboles que maintenant je vais entrer plus dans une partie de la soirée. Je vais vous parler juste brièvement des termes spécifiques de Dieu, péché, résurrection, Jésus, les termes plus spécifiques, à savoir que tous ces termes-là ont deux interprétations. Une interprétation sur un niveau, le plus haut niveau, et un autre ici dans le monde de dualité. Donc on peut dire une interprétation dans la non-dualité pure, une interprétation dans la dualité. Père, par exemple, sur le niveau le plus pur, Dieu est là-haut. Vraiment, l'essence d'où nous venons, notre source, dans l'abstraction de l'esprit le plus aimante, le plus pur, le plus magnifique. Ça, c'est Dieu dont nous faisons partie. Mais pour traduire ça, parce que ça ne veut pas dire grand-chose pour nous qui sommes ici, qui devons débattre avec la circulation et avec les foules dans la rue tous les jours, on a besoin d'un symbole de Dieu qui est plus concret, plus parlant. Donc maintenant, Dieu est un père. Ce n'est pas juste une abstraction d'esprit magnifique, c'est un père. Un père aimant, un père qui nous appelle, un père qui veut avant tout que nous rentrons à la maison et que nous n'ayons plus peur. À la différence d'autres histoires d'un père qui est un père enragé ou un père fâché. Donc, le cours nous présente ça, un père aimant, tout comme un frère, comme Jésus, au lieu que ce soit un frère qui nous culpabilise par la crucifixion et en nous montrant son visage trempé de sang avec le front transpercé d'épines, ce qui est l'image que l'histoire nous a présentée de ce frère qui est venu pour nous aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant, on est encore plus coupable que jamais. On pensait déjà que c'était assez mauvais d'avoir mangé la mauvaise pomme. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Deux mille ans plus tard, on est toujours coupable pour ce pauvre Jésus. Donc non, le cours nous offre une image d'un Jésus qui n'a pas du tout souffert sur la croix. Ça ne l'a pas dérangé du tout qu'on le crucifie ou qu'on fait quoi qu'il soit avec lui, et qui veut juste nous prendre par la main et nous rassurer que la culpabilité n'a pas de cause, n'a pas de raison du tout. Donc, et ça c'est dans la dualité, parce qu'on a besoin de ce symbole de grand frère. Maintenant, sur le niveau plus haut, Jésus fait partie intégrale de Dieu. Nous sommes fusionnés dans un ensemble. Jésus est exactement la même chose que nous. Il fait partie du Saint-Esprit. Il fait partie de nous. Nous faisons partie d'une grande famille. Nous sommes tous parfaitement en égalité. Donc voilà, il y a les symboles du cours sont un moyen intermédiaire pour accéder à des sphères plus hautes, à une prise de conscience plus haute. Ce n'est pas l'aboutissement du cours, c'est de juste travailler avec les symboles, bien maîtriser les symboles, les utiliser, les intégrer, Jésus c'est ça et tout ça. C'est juste des moyens d'accéder à autre chose. Je mets une importance sur ça parce qu'il y a des gens qui confondent le symbole et la source, le fond et la forme. C'est-à-dire, il pense que Jésus, c'est un objectif. Et entendre la voix de Jésus, entendre la voix du Saint-Esprit, c'est l'objectif. Ce n'est pas du tout l'objectif, même si le cours utilise ce langage de temps en temps. C'est un moyen d'accéder à un autre état d'esprit plus haut. C'est juste pour nous dire, au lieu d'avoir un esprit que nous pensons nous parle en mal, maintenant on a un esprit qui nous parle en bien. Mais l'idée n'est pas de rester à essayer d'écouter ce Saint-Esprit qui nous parle en bien. Parce qu'il y a différents courants de lecteurs du cours qui peuvent le lire comme ça. Que l'idée, c'est de rester là avec l'idée de rester à écouter la voix du Saint-Esprit. Et je peux comprendre ce point de vue, mais selon mon enseignement et selon ce que je comprends aussi du vrai objectif du cours, c'est pour nous emmener bien plus loin encore. Là où nous devenons la voix du Saint-Esprit. Nous l'avons entendu, nous appelé vers le pardon, nous avons pratiqué le pardon, nous continuons à pratiquer le pardon. Ainsi, nous entrons de plus en plus dans l'Esprit, juste où naturellement, nous entendons le Saint-Esprit, la voix de Jésus, nous fusionnons avec cette présence que nous sommes de toute façon. Nous devenons naturellement les extensions de Jésus et du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal. Nous n'avons plus besoin de dire « j'ai entendu la voix du Saint-Esprit » ou « j'ai entendu la voix de Jésus ». On n'a plus besoin quand on est dans l'Esprit juste. Comme mon prof nous dit très souvent, de toute façon, nous sommes tous des canaux. Tout le temps, nous canalisons, systématiquement. Celui dit qu'il fait de temps en temps un canal pour celui ou cela. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que de toute façon, on est toujours en train de canaliser. Parce qu'il n'y a que deux voix. Il n'y a que la voix de l'esprit juste et l'esprit faux. Ici, on a l'ego. Ici, dans l'esprit faux, nous l'appelons l'ego. Ici, dans l'esprit juste, nous l'appelons Jésus ou le Saint-Esprit. Il n'y a que deux voies, deux possibilités. Donc, quand je n'entends pas la voix de Jésus, ça veut dire que je suis en train de canaliser l'ego, ce qui m'arrive souvent, ce qui arrive à tout le monde assez souvent, sinon on ne sera pas ici. Donc, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas forcément un endroit de plaisir et de joie. Et nous évoluons graduellement, progressivement, vers une position de notre esprit juste de plus en plus. Et quand nous basculons dans l'esprit juste, nous pouvons dire, naturellement, j'ai été dans l'esprit de Jésus ou du Saint-Esprit. Quelle surprise, aucune surprise, c'est tout à fait normal. J'ai été une extension de la considération, de la compassion qui existe dans l'esprit juste. C'est-à-dire que j'ai considéré mon frère comme moi-même. J'ai considéré que nous n'étions pas différents, que nous n'avions pas d'intérêts séparés, comme dit le cours assez souvent. Et c'est tout. À ce moment-là, je peux dire, j'ai été effectivement un outil de Jésus ou du Saint-Esprit, mais ce n'est pas un mystère. Heureusement, nous faisons ça aussi bien que nous soyons aussi les canaux de l'ego. Donc, il n'y a pas trop de confusion là. Bon, qu'est-ce que le péché ? Le péché, selon la Bible, pas besoin de trop en parler. Le péché, juste le péché, c'est quelques petits mots, mauvaise blague. Le péché est insanité. Le péché est une rupture dans la communication. Le péché est une simple erreur. Le péché est une mauvaise perception. L'attraction de la culpabilité se trouve dans le péché et non dans l'erreur. Le cours parle aussi de l'irréalité du péché. Donc, c'est relativement clair que pour le cours, c'est simplement une rupture de communication. Ça veut dire qu'on n'a pas entendu la voix douce et calme qui nous dit « Quel péché ? Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché fondamental parce qu'il n'y a pas eu de séparation. Nous sommes toujours dans nos grands fauteuils au ciel, tranquillement en train de roupiller, en rêvant d'un rêve de séparation. Il n'y a pas eu de séparation, donc il n'y a pas eu de péché de culpabilité. À savoir que nous allons revenir plein de fois, quand on fait une lecture du cours ou autre chose, on va revenir sur une perception que j'ai fait mal. Oh, qu'est-ce que j'ai fait mal? Je ne fais pas bien. J'ai fait tout ce qu'il me dit dans le cours, j'ai fait mal. Il parle à moi, c'est sûr, il m'a vu. Et c'est frappant. Vous allez trouver, vous allez tomber sur ces passages, vous êtes sûr qu'il vous a vu. Et ça m'est arrivé dans un stage de Kenneth aux États-Unis. Moi, j'en pouvais plus. J'y parlais de la particularité en général. C'était dans cette partie ici, entre 17 et 19 projections par là. Et c'était tellement frappant, c'était tellement clair que la façon dont il en parlait. J'ai commencé à être vraiment gêné là, mais qui me montait et qui m'a provoqué une rage dedans. Mais une rage dedans. Mais que je savais, c'était ma j'allais appeler par la suite ma dent de la culpabilité. Ce qui n'était pas une culpabilité réelle, parce que il s'est rien passé dans cette salle, sauf que j'ai entendu les mots et qu'il parlait de la façon que nous nous comportons par rapport à d'autres personnes. Et j'ai l'impression d'avoir été, tout était dévoilé d'un coup. J'ai été mis à nu. Et ça peut arriver. Il faut qu'on se rende compte que des fois, quand on met le doigt sur la chose qu'on sait au fond, le comportement qu'on fait au fond, la façon que nous sommes avec les autres, on peut avoir des réactions un peu vives des fois. Donc voilà. Je me suis pas permis de parler de tout ça au début de l'année, mais maintenant nous allons. Je veux savoir qu'on a une certaine robustesse et que nous pouvons en parler s'il le faut. Je pense que je vais sortir quelques termes. L'expiation, ça c'est un terme qui peut bloquer beaucoup de gens. Je n'ai pas trop approfondi là parce que je pensais qu'on n'allait pas avoir trop le temps, parce que je veux parler plutôt de Dieu et Jésus. Je vous demande juste d'être très patient quand vous voyez le terme expiation. Je sais que c'est très chargé de culpabilité en français. Dans la culture, dans la tradition française, à savoir, ça veut purement dire le pardon, si vous voulez. C'est le sens pur du miracle et du pardon. L'expiation, c'est la correction. La correction est encore l'inconvénient avec le langage, avec la langue française, c'est que correction en français peut aussi dire clac. Correct, ouais. C'est terrible. Qu'est-ce que oui, sauf que quand une maître d'école dit je lui fais une correction, voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire. Attention, je te fais une correction. Ce qui complique la tâche un petit peu, parce que c'est le mot que nous utilisons, mais correction dans le sens le plus aimant. Voilà. Si vous pouvez essayer d'écouter ça à chaque fois que vous voyez le mot expiation, ça n'a rien à voir avec expier dans le sens que racheter pour nos péchés, supplier Dieu, dire à Dieu à quel point il est magnifique, alors on adore sa barbe blanche, qu'il doit avoir une coiffure de choc, ou je ne sais pas comment on peut se rattraper avec une telle boulette comme on a fait comme ça. On sait qu'on a fait plein de bêtises. Comment je peux me racheter? Qu'est-ce que je dois faire pour Jésus? C'est pas moi qui l'a mis les clous dans ses mains et tout, mais pourtant je suis coupable. Il y a plein de choses dans la psyché humaine qui fait en sorte qu'on se culpabilise à des niveaux très très profonds. Donc je vous mets en garde de ça, et faites attention au mot expiation. Ça ne veut pas dire du tout, ça n'a rien à voir avec la culpabilité ou le rachat. C'est purement l'idée, le processus en anglais, atonement, et là où on doit faire aussi attention, parce que atonement a aussi d'autres pièges. Ça ne veut pas dire en anglais, si les gens qui écoutent cet enregistrement, si vous avez une compréhension de l'idée de atonement en étant at one moment, ça ne veut pas dire ceci. Mais je n'explique pas ici parce que c'est pas un coup pour les anglophones. Mais c'est que voilà, les gens qui pratiquent le coup peuvent avoir peut-être une connaissance d'anglais et il peut avoir confusion. L'expiation est le processus d'accepter notre innocence, que nous n'avons rien fait. C'est ce processus-là. Donc, expier, si vous voulez, c'est de se débarrasser de l'idée que nous avons fait quelque chose que nous, pour lequel nous devons nous racheter, quoi qu'il soit. Nous n'avons rien fait, rien s'est passé. La résurrection que vous allez voir de temps en temps, c'est purement notre propre résurrection que nous effectuons pour nous-mêmes par le biais du pardon. Nous pratiquons notre propre résurrection. Par notre connaissance, le développement de notre connaissance, le pratique du pardon, ce qui est notre pardon à la fin pour nous-mêmes, d'avoir pensé, d'avoir fait quelque chose que nous n'avons jamais fait. Nous sommes toujours assis dans ces grands fauteuils dans notre foyer céleste. Choisissez votre marque. C'est le don du ciel, c'est qu'on peut choisir la marque du fauteuil stressless ou... celle que tu veux. Dieu, on va parler de Dieu un peu. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais c'est sûrement très tard. Bon. Est-ce qu'on parle de Dieu et de Jésus quelques minutes? Est-ce que je vais finir avec Jésus tout à l'heure? Dieu, je crois qu'il est important parce qu'il est, probablement le point central enseigné. La difficulté du départ, c'est qu'on s'est mis en juxtaposition avec une idée de notre source. Le simple fait de dire, je commence grand œuf, je suis à l'intérieur de cet œuf, à l'intérieur de l'œuf cosmique, je suis une émanation de l'œuf. Vous le voyez? Non. Donc, Patricia est en train de dire, oh non, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc, je suis à l'intérieur de grandes œuvres cosmiques, je ne sais même pas que je peux exister, je fais tellement partie intégrale. Soudain, je ne sais même pas comment, en fait, le cours dit que ce n'est pas vraiment possible, mais l'impossible semble s'être produite. C'est un paradoxe, d'accord? On n'en parle pas maintenant. Il semble, cette petite émanation pense s'être sortie juste suffisamment pour pouvoir regarder le magnifique œuf céleste pour dire... Tiens, bon débarras, je suis sorti maintenant, est-ce que ce n'est pas une bonne idée de continuer avec cette séparation? Pour la première fois, il y a un autre. Avant, il n'y avait même pas un autre. Il n'y avait pas de dualité, il y a parfaite non-dualité. Maintenant, j'ai mon œuf à côté de moi, il est énorme, il est gigantesque. Je me mets en juxtaposition ou en opposition, forcément. C'est lui ou moi. Lui ou moi. Si je veux exister, il faut que ça soit l'un ou l'autre. Au dépend, on ne peut pas coexister dans une harmonie parce que la réalité n'est pas deux. La seule façon que je peux exister en dehors de cette magnifique unité, c'est en repoussant contre l'autre qui est ma réalité. Donc la définition de moi-même, c'est opposition à la réalité. Que nous appelons maintenant Dieu, l'unité, d'où viennent par la suite toutes ces histoires de la peur de Dieu, parce que je vais toujours avoir peur de celui que j'oppose. C'est ça français? Je vais avoir peur de celui que j'oppose. C'est ça? Ah, c'est ça, je savais, mais il y avait un truc là. À qui j'oppose, voilà. Je m'oppose. À qui je m'oppose? Merci, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas là. Je vais toujours avoir peur de celui à qui je m'oppose. Vous avez chipoté maintenant les Français. Toujours systématiquement. C'est pour ça que notre chemin de retour est assez facile à définir maintenant. Je n'ai plus qu'à m'opposer, je n'ai qu'à me joindre. Et joindre, dans la définition du cours, c'est de voir les similitudes au lieu de voir les différences. Donc, cette idée de peur existentielle vient de cette idée que j'ai accompli mon identité en m'opposant à quelque chose, en m'opposant à l'ensemble, à ma réalité, à l'unité d'où je viens. Si la réalité était une unité, je ne me sens plus dans cette unité. La façon dont je l'ai accomplie, c'est en m'opposant à cette réalité. Il y a forcément une tension entre les deux. Cette tension n'est pas une simple petite tension, c'est une énorme tension, gigantesque. C'est pour ça que nous prenons notre temps quand nous le faisons. Voilà, pour parler de cette peur, j'ai trouvé une autre petite extrait. Tu, soi-disant, chacun dit clairement à ton esprit effrayé, tu as usurpé la place de Dieu. Mon ego me dit, ne pense qu'il est oublié. Là, nous avons la représentation le plus dure de la peur de Dieu, car dans cette pensée, la culpabilité a déjà élevé la folie jusqu'au trône de Dieu lui-même. Et maintenant, il n'y a pas d'espoir, sauf de tuer, d'opposer et de tuer, pour pouvoir continuer à exister, parce que sinon, l'autre va, la grande œuvre cosmique, Dieu, va essayer de me re-englober dans sa totalité. Je sens cette pression, lui ou moi. Donc, j'ai l'impression que lui, il vient pour me tuer, pour m'anéantir. D'où toute cette peur et ces idées, cette histoire de la rétribution de Dieu qui nous cherche. Dans cette phrase, « Et maintenant, il n'y a pas d'espoir, sauf de tuer. Là est le salut maintenant. Un père en colère poursuit son fils coupable. Tue ou sois tué, car là seulement il y a un choix. Au-delà de cela, il n'y en a pas, car ce qui a été fait ne peut être défait. La tache de sang, ce qui rappelle Macbeth de Shakespeare, parce que l'auteur, en fait, il était grand amateur de Shakespeare. Et ça vient directement de Shakespeare, de l'histoire de Macbeth. La tache de sang ne peut jamais être enlevée. Et quiconque porte cette tâche sur lui doit trouver la mort. Pas des jolies idées, mais au moins que c'est clair. Ça parle de cette idée de s'être mise en opposition. C'est inné chez tout le monde. Mais il y a rédemption. Il n'y a pas. C'est tout dans l'illusion de ce monde. Je veux que personne n'ait peur à entendre et à écouter tout ça. C'est juste dans la mythologie qui a fabriqué ce monde. C'est des courants qui sont au plus profond de la psyché humaine. C'est pour ça que nous faisons ce cours ce soir, juste sur ce sujet. Où est-ce que j'ai la rédemption plus tard? Voilà, on va peut-être couper court à ça parce que c'est trop beau, j'ai beaucoup aimé. Oui, tant qu'à faire. On va lancer ça. Ça va? Ça va jusqu'où là? Ok. Tu te demandes peut-être pourquoi il est tellement crucial que tu regardes ta haine afin d'en prendre la pleine mesure. Tu penses peut-être aussi qu'il serait assez facile pour le Saint-Esprit de te la montrer et de la dissiper sans que tu aies besoin de la faire monter à la conscience. Or, il est encore un autre obstacle que tu as interposé entre toi-même et l'expiation. Nous avons dit que personne n'admettrait la peur s'il le reconnaissait. Or, dans ton état d'esprit désordonné, tu n'as pas peur de la peur. Tu ne l'aimes pas, mais ce n'est pas ton souhait d'attaquer qui t'effraie réellement. Tu n'es pas sérieusement perturbé par ton hostilité. Et ça entre vraiment dans le vif de l'ego ici, maintenant. On parle, quand il dit tu, il faut savoir qu'il parle de l'ego ici. Et à nous, quand nous sommes dans l'ego, quand nous nous identifions à l'ego, parce que bien sûr, nous sommes aussi autre chose à chaque instant, il faut pas oublier. Quand nous sommes dans l'ego, nous ne sommes pas sérieusement concernés ou nous n'avons pas sérieusement peur de notre hostilité, qui peut être très très aiguë. Tu la gardes cachée parce que tu crains davantage ce qu'elle recouvre. Tu pourrais même regarder sans peur la plus noire des pierres angulaires de l'ego. Si tu ne croyais pas que sans l'ego, tu trouverais au-dedans de toi quelque chose dont tu as plus peur encore. On a plus peur encore de quelque chose de plus grand que notre hostilité. Pourtant, je pensais que c'est ce qui me faisait plus peur, de voir vraiment la haine en moi. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion. Tu as ta réelle terreur et de la rédemption. Sous les fondements ténébreux de l'ego se trouve la mémoire de Dieu. Et c'est cela dont tu as réellement peur. Car cette mémoire te rétablirait immédiatement à ta juste place. Et c'est cette place que tu as cherché à quitter. Si on ressent l'amour de Dieu, on va se souvenir de notre vrai foyer et on va plus avoir peur et on va rentrer à la maison. Ta peur de l'attaque n'est rien en comparaison de ta peur de l'amour. Tu serais même prêt à regarder ton souhait brutal de tuer le Fils de Dieu si tu ne croyais pas qu'il te sauve de l'amour. Car ce souhait a causé la séparation et tu l'as protégé parce que tu ne veux pas que la séparation soit guérie. À savoir que c'est la partie de nous là. On est tous toujours là aussi. Une partie de nous veut rester fermement dans la séparation. Tu te rends compte qu'en enlevant le noir nuage qui l'obscurcit, ton amour pour ton père te pousserait à répondre à son appel et à bondir jusqu'au ciel, ce que nous ferons. Tu crois que l'attaque est le salut parce qu'elle t'empêcherait de le faire, car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego, est bien plus fort qu'ils ne le seront jamais. Il y a ton amour pour Dieu qui brûle d'un feu intense et le sien pour toi. C'est cela en réalité que tu veux cacher. Donc il parle vraiment en deux temps de notre peur, notre haine et de là notre vrai amour pour notre Père et qu'on sauterait immédiatement au ciel si on se permettrait. Voilà, on a traversé pas mal de ce langage de Dieu et de Jésus. La dernière petite chose, c'est cette leçon que j'ai déjà fait, peut-être pas avec, je pensais à faire avec vous. C'est encore la juxtaposition quand il nous parle de notre esprit faux et esprit juste. Vous allez rencontrer ça encore souvent. Cet extrait-là, c'est pris de la leçon 93. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. On penserait tout de suite, oh, magnifique, là, cette leçon, je vais vraiment me faire un plaisir. Le premier paragraphe est très, très dur. Très dur. Ça devient beaucoup plus beau après. Mais c'est parce que dans un premier temps, il nous dit, voilà ce que tu penses de toi-même. Tu n'es pas ça. Mais maintenant, dans le premier paragraphe, je vais te dire ce que tu es. Tu es la lumière, la joie et la paix demeurent en toi, mais ce n'est pas ce que tu penses. La seule raison que je dois te le dire, c'est parce que tu ne le penses pas. Donc maintenant, parle en une minute de ce que tu penses réellement de toi. Ce qui fait le premier paragraphe. Attention. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait la répulsion et il reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Bon, d'accord, encore, il ne triche pas avec les mots. Il met le doigt, il dévoile dans sa totalité le fondement vraiment de l'ego, vraiment le sentiment de fond de l'ego, que l'ego dirait sur nous-mêmes si on l'écouterait. C'est là dans l'ADN de chacun. Trois paragraphes plus tard, paragraphe 4. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et saint que tu fus créé et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi. L'image que tu as de toi-même ne peut résister à la volonté de Dieu. Tu penses que c'est la mort, mais c'est la vie. Tu penses que tu es détruit, mais tu es sauvé. Nous allons regagner cet endroit ici. Mais il faut qu'on traverse là. Donc le langage, c'est pour ça, le langage nous confronte. Espérons que peut-être après ce soir, vous n'allez avoir aucun souci, aucun problème pour aborder ça, parce qu'on aurait fait, dans l'espace d'une heure et demie, on aurait vraiment fait le plus rude des introductions. Donc juste pour finir, Jésus lui-même, étant le représentant de notre esprit juste, et nous venons de voir dans les deux passages que je viens de vous lire, qu'en nous, il y a quelque chose en nous qui s'attache, qui s'accroche sur notre identité personnelle basée dans l'esprit faux, forcément, on va ressentir la présence de l'esprit juste comme une menace qui nous tire vers l'amour, mais on a une relation très ambivalente avec cet amour. D'un côté, on a vu, on sauterait dans ses bras, de l'autre côté, on veut se cacher les yeux. La partie de nous qui aime toujours l'idée de rester dans ce monde et d'accomplir les choses avec nos corps va repousser, va avoir peur. Une autre partie de nous ne veut qu'une chose, c'est de revenir et être présent avec Jésus et le Saint-Esprit. Donc forcément, notre relation avec Jésus, qui représente, qui est nul autre que notre représentation de notre propre esprit juste, notre propre pureté et sainteté, cette relation sera ambivalente. Ça veut dire que des fois, on va vraiment beaucoup apprécié avec une générosité pure, et à d'autres moments on va ressentir un agacement, voire une haine. Et il y a beaucoup de gens qui éprouvent ça quand ils lisent ce livre. Je ne sais pas, il y a peut-être 2 millions de livres qui ont été vendus, 1 million de ces chiffres ont traversé les vitres et qui sont attirés sur le trottoir à l'extérieur à un moment ou autre, tellement le ressenti de « mais tu m'agaces, il y a quelque chose dans ce livre qui peut être vraiment agaçant ». Et voilà, c'est soit la poubelle ou soit la fenêtre. J'ai jamais entendu du baignoire, j'ai jamais entendu peut-être l'écraser sous le roue d'une voiture. J'ai pas encore entendu, si vous voulez expérimenter. Mais en tout cas, l'idée c'est de ne pas être surpris si vous avez des remontées d'émotions ou de ressentis. C'est notre ambivalence. Il nous attire d'un côté, nous savons qu'il y a des choses que nous devons abandonner si nous voulons accéder à notre vraie identité dans la pureté. Ce que nous devons abandonner, c'est notre sentiment d'être différent des autres, d'être supérieur, d'être inférieur, notre agacement qui met le blâme sur nos gènes, sur les autres, notre façon de toujours trouver que les autres sont vraiment la cause de nos malheurs. C'est ça ce que nous devons à force abandonner, c'est notre position. Et des fois, on ne veut pas. Je veux être moi-même. Je veux être le Bernard que j'ai toujours connu. Je veux être le Brigitte, le Dominique que j'ai toujours connu. Laisse-moi un peu de temps. Si je veux avoir un problème avec mon mari ou avec ma femme, laisse-moi faire, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est encore un choix que je suis en train de faire. Non, non, je ne veux pas savoir. Le chauffeur qui m'a coupé la route, la dame dans l'administration, Jeannot et Marianne. Laisse-moi les critiquer, s'il te plaît, pour une fois, bon coup, juste pour décharger, pour savoir que ce n'est pas ma faute. Laisse-moi juste un petit peu de marge pour savoir, pour une fois, que c'est l'autre qui m'a fait ceci et que moi je ne suis pas coupable. Je ne veux plus être coupable, je ne veux plus être responsable pour ce qui me gêne. Bon, je vais nous installer juste pour cette petite méditation de fin. Parce que je pense que vous le méritez là maintenant. Hein? Vous avez travaillé? Hein? Vous n'avez pas l'impression? Ah, c'était du travail ce soir. Pfiou. C'est une méditation en même temps, en fait, à la fin du livre, il y a une section qui s'appelle clarification des termes. Et donc, pour finir ce soir, je vais vous lire la partie qui s'agit de Jésus, le Christ. C'est de l'information d'un côté, mais c'est dit d'une façon très, très lyrique, très poétique, donc je veux le partager avec vous. C'est son rôle, c'est sa place auprès de nous. Si vous l'entendez bien, si vous l'écoutez bien, vous allez aussi trouver votre place auprès de lui. Que nous sommes ensemble, nous sommes identiques. On y va ? Petite lampe. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté, mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité que Dieu seul a établie dans la réalité. Des aides, avec un A majuscule, te sont données sous de nombreuses formes, bien que sur l'autel il ne fasse qu'un. Au-delà de chacun d'eux est une pensée de Dieu et elle ne changera jamais. Mais ils ont des noms qui diffèrent pour un temps, car le temps a besoin de symboles, étant lui-même irréel. Leurs noms sont légion, mais nous n'irons pas au-delà des noms que le cours lui-même emploie. Dieu n'aide pas parce qu'il ne connaît pas de besoin, mais il crée tous les aides de son Fils tant qu'il croit que ses fantasmes sont vrais. Remercie Dieu pour eux, car ils te conduiront chez toi. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. Ainsi, il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. L'homme était une illusion, car il semblait être un être séparé qui marchait seul à l'intérieur d'un corps qui paraissait garder son soi loin du soi, avec une grande S, comme le font toutes les illusions. Or, qui peut sauver à moins de voir les illusions, puis de les identifier comme ce qu'elles sont? Jésus demeure un sauveur parce qu'il a vu le faux sans l'accepter pour vrai. Et le Christ avait besoin de sa forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. Dans sa complète identification avec le Christ, le Fils parfait de Dieu, sa seule création et son bonheur, a jamais paré à lui et un avec lui. Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Il t'a guidé dans la voie pour que tu le suives. Il te ramène à Dieu parce qu'il a vu la route devant lui et qu'il l'a suivi. Il a fait une claire distinction, encore obscure pour toi, entre le faux et le vrai. Il t'a offert une dernière démonstration de ce qu'il est impossible de tuer le Fils de Dieu et que sa vie ne peut être changée en aucune façon par le péché et le mal, la malice, la peur ou la mort. Par conséquent, tous tes péchés ont été pardonnés parce qu'ils n'entraînaient pas du tout d'effet. Ainsi, ce n'était que des rêves. Élève-toi avec lui qui t'a montré cela, parce que tu le dois à celui qui a partagé tes rêves afin qu'ils soient dissipés et qu'il les partage encore pour être en union avec toi. Est-il le Christ? Oh oui, avec toi. Sa petite vie sur terre n'a pas suffi pour enseigner la puissante leçon qu'il a apprise pour vous tous. Il restera avec toi pour te conduire de l'enfer que tu as fait jusqu'à Dieu. Et quand tu joindras ta volonté à la sienne, ta vue sera sa vision, car les yeux du Christ sont partagés. Aller avec lui est tout aussi naturel que d'aller avec un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. D'amères idoles ont été faites de lui, qui ne voulait être qu'un frère pour le monde. Pardonne-lui tes illusions et vois quel frère aimant il serait pour toi, car enfin il apaisera ton esprit et le portera avec toi jusqu'à ton Dieu. Est-il le seul aide de Dieu? Certainement pas, Car le Christ prend de nombreuses formes aux noms différents jusqu'à ce que leur unité puisse être reconnue. Mais Jésus est pour toi le porteur de l'unique message du Christ, qui est l'amour de Dieu. Tu n'en as pas besoin d'autre. Il est possible de lire ses paroles et d'en bénéficier sans l'accepter dans ta vie. Or, il t'aiderait encore un peu plus si tu partageais tes douleurs et tes joies avec lui, puis laissais les unes comme les autres derrière toi pour trouver la paix de Dieu. Mais c'est encore et surtout sa leçon qu'il voudrait que tu apprennes, et la voici. De mort, il n'y en a pas, parce que le Fils de Dieu est pareil à son Père. Rien de ce que tu peux faire ne peut changer l'amour éternel. Oublie tes rêves de péché et de culpabilité, et viens plutôt avec moi partager la résurrection du Fils de Dieu. Et amène avec toi tous ceux qui t'ont envoyé pour que tu en prennes soin comme je prends soin de toi. Merci, merci beaucoup d'avoir survécu à ce cours qui était peut-être un petit peu difficile, un petit peu plus en détail par rapport à la nature du chemin et tout. Mais en tout cas, je tenais un peu à le faire pour faciliter votre passage. Peut-être. Quand nous lisons maintenant les passages du livre, vous allez voir comment placer le symbolisme dans un contexte plus correct et d'être plus à l'affût des gènes, de savoir d'où ça peut venir. Et qu'il n'y a qu'un message qui doit sortir de ce livre, c'est un message d'amour. Mais c'est certain qu'à à différents moments, vous allez avoir un autre ressenti. Et c'est normal. Voilà. Donc, ça c'est la fin de notre soirée. Si vous avez des questions ou quelque chose à dire, un commentaire à faire, ça sera toujours avec plaisir.